Mes parents m'étaient venus d'Italie. Mon père avait 15 ans avec ses parents. Et ma mère, un peu plus tard, elle était venue. Normalement, nous, on devait être américains. Je ne devais pas être ici, moi. Parce que mon grand-père, du côté de mon père, lui, il a travaillé beaucoup, beaucoup de temps en Amérique. Il faisait un mois de bateau, le pauvre. Il y a trois fois, il a fait la traversée. Il revenait à chaque fois à son village, il languissait, il revenait. Je me rappelle que mon père me racontait, quoi. Parce qu'il vous voyait, son père. Il dit, mais pourquoi vous n'êtes pas resté là-bas? Vous avez travaillé que pour les compagnies transatlantiques, pour les bateaux. Nous, on serait américains, vous nous aurez fait venir là-bas, on serait américains, on serait bien. Et nous, maintenant, ici, on est des malheureux. Enfin, mon père, il me racontait ça, qu'il disait. Mais lui, il revenait à sa maison, à son clocher. Il revenait chez lui, trois fois il a fait la traversée. Des fois un mois de bateau. Au-dessus d'une vallée qui s'appelle la vallée Brembam. C'est une vallée qui part de un peu avant Milan, qui monte à Bergame et qui monte à la frontière suisse. Complètement au boulot. Quoi. Mais ils sont partis, il n'y avait pas de boulot à l'époque là-bas. Puis il y avait cette histoire de Mussolini, Ça commence, quoi, qu'il n'était pas encore là, mais enfin, il n'y avait pas de boulot, quoi. Alors ils partaient, ils allaient travailler ailleurs pour gagner la croûte. Hein. Normalement, je devais être américain, moi, je ne devais pas être ici à l'âge. Et ouais. Mais il revenait toujours à son clocher. Mais aussi, ils ont travaillé dur, ces gens-là. À 60 ans, il était mort. Le pauvre. La famille, elle restait en Italie. Ma grand-mère restait là-bas, les enfants, mon père, tout ça, restait là. Lui, il partait. Il partait travailler, il restait un an ou deux, puis il revenait, puis... Deux ans après, il repartait, puis il a fait trois fois la traversée, quoi. Et bien, mes parents, mon père a fait son service là-bas, mais il était déjà venu à 15 ans ici. Seulement, son père, c'est-à-dire mon grand-père, il a dit, tu es né en Italie, tu vas faire ton service militaire en Italie, c'est ton pays. Alors, à 19 ans, il est reparti faire son service là-bas. Mais lui, il avait une haine contre l'Italie. Il disait, c'est un pays qui m'a laissé tomber, on a été obligé de partir si on voulait vivre. Il ne gagnait pas d'argent à l'époque, c'était la misère, quoi. Alors il avait un peu la haine contre les Italiens, je me rappelle, moi. Et puis bon, après, plus tard, quand il était âgé, nous on faisait beaucoup l'Italie, on exportait beaucoup du bois en Italie, nos Milan, tous ces coins-là. Et souvent il venait avec nous, avec moi ou mon frère, quoi, pas que le chauffeur, mais avec mon frère ou moi. Et quand il avait passé la frontière, quand on roulait sur l'Italie, il était assis sur le siège du passager de l'autre côté, il était là comme ça, il voyait les larmes qui coulaient. Je lui dis, qu'est-ce que tu as, ça va pas? Ah, il m'a dit, c'est mon pays. Et ouais. Alors il me disait, mais tu te rends compte un peu les choses. Moi j'étais obligé de partir parce qu'on crevait la dalle. Et maintenant c'est l'Italie qui nous fait vivre. Nous on exportait tout là-bas. Turin, Milan, Verzolles, Savonne, tous ces coins-là, quoi. Pas que la vallée, mais je chargeais partout. Hein. Dans le Var, Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, de partout, on chargeait, quoi. Et on livrait des usines de machines de pâte à papier. Et c'était plus facile de l'acheter ici. Même avec les transports, en plus. Moi, j'arrivais, des fois, on faisait trois tours par semaine à Milan, d'ici, avec des engins de 300 chevaux. Et maintenant, mon fils, il continue, mes enfants continuent. Mais ils ont des 750 chevaux maintenant. Je me rappelle, on montait le Mont-Genèvre, ou bien le col de l'Arche, quand on allait d'en bas. On montait, disons, à 10 à l'heure, quoi. Chargé comme camion remorque, quoi. Puis on était pas total en charge, 60 tonnes, 58-60 tonnes, 65 tonnes, des fois. Alors, avec 300 chevaux, on va pas vite, hein. Maintenant, ils montent le col comme les voitures. J'ai fait ça pendant toute ma vie, quoi, jusqu'à la retraite. Un des gars qui travaillait pour nous, c'était un peu un chef de son équipe, ils étaient déjà 5 ou 6, il avait ses neveux, son frère, tout ça, enfin bon. Et je le vois passer devant le car à pied, il allait à la poste, à la mairie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait faire. Je l'interpelle, je m'avance, je descends du cap, et puis il s'approche. J'ai dit, ça va, Mini? Il me dit, non, il se met à pleurer comme un gosse. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, mon fils est en prison. Il me dit, comment je fais, patron? Comment je fais? Comment je fais? Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'il a fait?
Ben, ils sont allés voir les filles à Marseille, là-bas, je ne sais pas quoi. Là. Et là-bas, il y a eu un contrôleur. Il a filé un coup de poing ou un coup de tête à un flic. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, il faut que tu prennes un bon avocat, tu vas voir, c'est ça, c'est pas... Il a tué personne. Il m'a dit, non, mais il pleurait, le cher. Il m'a dit, comment je viens prendre un avocat? Patron, j'en prends deux. Non, ne prends pas deux, prends un bon avocat. Il m'a fait de la peine, le cher. Il m'a fait beaucoup de peine. Quand on se voit, ben, on se rappelle les bons souvenirs. Pourtant, c'était des ouvriers de chez nous, hein, mais toujours resté à bon terme. Hein. Il y en a un, je l'ai vu à l'hôpital il n'y a pas bien longtemps, aux urgences. Je ne sais pas ce que j'étais allé faire aux urgences. Il était là. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, je ne sais pas. Celui-là, de temps en temps, marocain, c'est rare, hein, de temps en temps, il buvait un petit coup. Je ne sais pas ce qu'il avait fait, il s'était cassé le bras, il s'était tombé, je ne sais pas. En même temps, ils sont plus jeunes, hein, ils sont âgés. Mais les filles, ils font des conneries, quoi. Mais les parents, des gens comme ça. Les Marocains, c'est les bons types. C'est des travailleurs. Nous, on en avait pas mal à un moment. On en avait une dizaine. Hein. Mais c'était des travailleurs. Ils travaillaient un peu comme les Arabes, pas trop bien. Bon. Mais c'est pas de leur faute, ils savaient pas. Alors, il fallait toujours y montrer, mais bon. Mais c'était des bosseurs, voilà. Ils avaient envie de bosser. Et des gens droits, comme ça déjà, incroyable. Ça, un jour, il m'est arrivé une couille une fois là. Parce que ce soit mon frère ou moi, on était toujours dehors avec les camions, hein, on n'était jamais à la maison. Et ça, ces gens-là, toujours de l'argent. Tous les trois jours, ils venaient chercher du fric. Et ouais, mais ils envoyaient au Maroc. Ils avaient cramé la dalle à l'époque. Puis, il y en a qui, quand il y a 4 sous, vite, ils faisaient une maison. Alors, ils avaient toujours besoin d'argent. Alors, tu en veux des acomptes, toi. Il y avait des lignes d'acomptes d'ici au bout de la table. Parce qu'à la fin de l'année, après, quand ils partaient, ils retournaient chez eux, au Maroc. Et on reprenait tout à zéro. Le travail qu'ils avaient fait, puis les acomptes. Alors, ils réglaient tout à la fin de l'année, là. Et ma foi, on était en train de faire les comptes. Moi, j'étais assis là, j'avais tous les papiers et tout. Lui, il était à côté de moi. Moi, je fais mes comptes et tout. Et lui, il faisait les siens, de son côté à lui, pour voir. Et moi, je trouvais de l'argent en moins. Lui, il trouvait beaucoup plus d'acompte que moi. Et non, alors nous, on n'était pas, c'était les femmes. La femme de mon frère ou ma femme à moi. Et les femmes, bon, ben, je ne sais pas, ils ont oublié un zéro, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont oublié un zéro. Et ça faisait une histoire de, je me rappelle, ça faisait, ben c'était les anciens francs, ça faisait une grosse somme, hein, une somme importante. Hein. C'était à l'époque des francs encore, mais ça faisait une somme très importante, 2 ou 3 millions, un truc comme ça. Hein. Ils étaient nombreux, ils étaient 10 ou 12 hein, dans l'équipe. Hein. Alors, ils me donnent les acomptes, moi, tout ça, moi je regarde tout ça. Et il me dit, patron, tu te trompes pas. J'ai dit, comment je me trompe pas? Ne commence pas, j'ai dit, parce que je ne me gêne pas avec lui. J'ai dit, c'est des acomptes, c'est comme ça. Ah, il m'a dit, non, c'est pas comme ça. Et c'est de l'argent en trop, c'est de l'argent que je te dois. Mais moi, j'ai dit, chapeau, lui, à ta place, moi, j'aurais dit, le patron se trompe, mais tant pis pour lui. Mais j'ai dit, chapeau, mon ami. Et c'est pour ça que j'ai toujours été copain. Alors, pour leur fête à eux, là, ils venaient à la ferme, bah, ils avaient construit un four à eux, un four avec des briques, et ils faisaient leur michoui à eux, dans le grand four, et on faisait la fête. Ils étaient chez eux, ils venaient à la ferme, ils étaient chez eux à la ferme. Mais on était bien, on a toujours été copains, amis, tout ça. Pourtant, c'était le patron, mais ben, je le respectais, les gens qui travaillaient. Voilà, à ça, cette fois-là, je me rappelle, j'ai dit, moi, ta place, mon pauvre, je reviens. Elle m'a dit, oh, non, il ne faut pas le faire, ça. J'ai dit, mais pourquoi? Ah, il m'a dit, parce qu'une fois qu'on ne va pas durer longtemps sur Terre. Et une fois qu'on est mort, l'autre, là où il nous attend, il m'a fait ça. Après, là où il nous attend, mais ouais. Et ma foi, c'est des gens, la religion aussi, ça y fait beaucoup. Hein. Ils ont peur d'être punis par Mohamed. Ah, mais les Marocains, c'est les bons gars. Après, on avait vraiment travaillé beaucoup avec, ici aussi, hein, avec l'usine de Tarasco. Mais à l'époque, ça marchait mal. Tout le temps, grève, des problèmes. Une fois, c'était le lessiveur qui marchait plus, une autre fois, il mettait le feu une autre fois. Alors c'est pour ça qu'on charriait là-bas. Quoi. Après, on est allé un peu partout. On a beaucoup charrié à Saint-Gaudens aussi, en Espagne aussi, on allait.
les bois de la côte brûlés, là, parce qu'il y a toujours les incendies, comme ces jours-ci, là. Là, il n'était pas question de se présenter dans une papeterie avec des bois brûlés. Même parce qu'il les écorce, il y a la machine qui écorce. Mais même, il ne les voulait pas. Dans les nœuds du bois, les bois secs, ça faisait une espèce de charbon, et ça faisait des trous noirs dans la pâte. Alors il n'y avait que l'Espagne. L'Espagne, ils prenaient tout. Alors, on charriait en Espagne, Barcelone, allez hop. Ouais, toute ma vie, j'ai damé le boudron. Et maintenant, j'ai plus envie. Je ne veux plus le voir, ce boudron. Jusque-là, j'en ai. J'aimais bien quelqu'un qui conduise à ma place, mais moi, stop. Conduire, j'ai plus envie. Je conduis s'il le faut, mais j'ai plus envie. Moi, je me rappelle quand j'allais à l'école, à Noyers, on voyait le côté nord, c'est-à-dire le côté d'ici, là. On voyait les troupeaux de moutons. Il y avait des gens qui avaient des moutons au château de Périgois, tout. On voyait le troupeau. Maintenant, on pouvait combiner. C'est, les pins ont tout envahi. C'est pins laricio, c'est pins corse, là. C'est pins noirs, quoi, c'est des pins noirs. Et puis après, les pins sylvestres, ces cochonneries de pins sylvestres, ça pousse partout aussi. Ils ont tout envahi. Il y a beaucoup de troupeaux, maintenant, il y en a moins, beaucoup moins. Ils sont beaucoup plus noirs, ils ont beaucoup plus d'animaux, mais ils ne sont pas nombreux, les grands bergers. Avant, ils avaient 30 troupeaux, 30 moutons, 30, 40 moutons par ferme. 50 maximum. Maintenant, c'est des troupeaux de 1000 moutons, mais il y en a 3 dans la vallée. Et puis, maintenant, ils partent tous aux estives l'été. Ils sont tous en montagne. Alors, ils savaient que la forêt nous envahit, quoi. En étant dans le bois, on travaille beaucoup avec l'ONF. Alors, à un moment, on avait monté un groupement, un GIE, ça s'appelait. Un groupement d'intérêt économique, ça s'appelle, quoi. Et on faisait des travaux publics. Mais nous, on ne travaillait que pour l'ONF. Hein. Les pistes, beaucoup les pistes. Toutes ces pistes que vous voyez dans l'Ure, tout ça, là. Les trois quarts, c'est nous qui les avons faites. Hein. Ah ouais. On avait deux buts, deux grosses pelles. On faisait les deux, l'exploitation, en même temps. Là, on avait un associé qui maintenant est parti. Ben, on s'en s'est séparé parce qu'il préférait traîner, discuter dans les bars que travailler, quoi. Alors, un bon jour, on en a eu marre, on dit, bon, on s'enlève du groupement, on se retire, quoi. Alors, il m'a dit, non, moi, je veux grandir, je veux continuer, je vais grandir. Et alors, ça n'a pas marché, quoi. Ça a duré un an, puis il a vendu les plans, quoi. Mais ben, d'abord, l'ONF, à l'époque, avait beaucoup de crédits. Beaucoup de crédits à l'ONF. Maintenant, c'est fini, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de sous. Ils font plus de travaux, presque, pratiquement plus, quoi. Mais à l'époque, il y avait beaucoup d'argent à dépenser. Moi, c'est les ingénieurs de l'ONF, le colonel, qui m'avait dit, mettez deux bulles, on vous fait travailler, deux pelles, allez-y, on vous fait travailler, voilà. Sinon, on ne serait pas rentré là-dedans, quoi. On l'a fait pendant 12 ans, mais après, bon, avec le collègue, là, on s'est séparés. Bon, on a arrêté, quoi. On ne fait plus que l'exploitation forestière et les transports. Parce qu'on est transporteur aussi. On n'est pas que exploitant forestier. J'ai passé un CAP de transporteur. Il faut un CAP pour ça. Et maintenant, un peu moins. Mais à l'époque, on remontait beaucoup du ciment dans la Valdonne, des coins d'en bas, des tuiles, d'ex, des engrais. On allait charger au port de Sète des engrais. Et on ramenait ici, ouais. Maintenant, ils le font toujours, mais ils ont moins de boulot dans les transports. Ils font pratiquement que le bois, puis ils n'ont pas trop le temps, quoi. Tous les agents forestiers du coin, là, de Sisteron et tout ça, quand ils voulaient faire... on se connaissait tous dans l'ONF, là, on travaillait toujours avec eux, on les connaissait tous. Alors quand ils faisaient la maison, je viens avec toi, on ramènera des carreaux. Et alors on ramenait les carreaux, on arrivait là-bas et on s'arrêtait à l'usine. On chargeait ses carreaux, on les ramenait. Ici, ils les trouvaient aussi, mais c'était beaucoup plus cher, quoi. On les ramenait d'Italie. Et voilà, ouais, non, mais on a été habitués comme ça, c'est tout. Moi, j'ai jamais pris de vacances jusqu'à ce que je me suis marié, quoi. J'ai jamais pris un jour de vacances, jamais. Boulot. Et les vacances, pour nous, pas connaître. Et ici, comme sous le régime de Pétain, travail, famille et patrie. L'avenir de la vallée, au point de vue agriculture, il n'y a qu'une chose qui peut compter à l'avenir, hein, avec cette histoire d'eau là, et tout ça, c'est les moutons et la lavande. Voilà l'avenir de la vallée. faut plus s'amuser à faire des maïs ni des tournesols, hein. Il n'y a plus d'eau. Et de jour en jour, vous le voyez, il y a 80 départements en ce moment qui sont en insuffisance d'eau. Alors moi, la vallée, je la vois qu'avec des troupeaux de moutons, de chèvres aussi, et de la lavande, du lavandin. Ça marche, le lavandin et la lavande. Hein. Et les agneaux aussi, ils se vendent. Enfin, on trouve à vendre, les agneaux. Voilà, moi, je vois l'avenir dans la vallée. Le bois, il n'y en a plus guère. L'ONF, comme elle n'a plus de crédit depuis très longtemps, elle le fait abattre, mais elle ne replante rien. Ils n'ont plus de crédit, ils n'ont plus d'argent. Alors, ça repousse naturellement, mais enfin, c'est plus ça, quoi. Vous allez dans la montagne de Lure, à l'époque, dans les eaux et forêts, on faisait que le triage. Hein. Vous coupez un arbre sur cinq, il fallait passer entre. Maintenant, ils ont besoin de fric, ils ont presque tout coupé, quoi. Alors, il y a des petites repousses qui poussent, là. Mais avant, il y avait de beaux arbres, hein. Mais ils ont pratiquement tout vendu, quoi. Et ouais, mais avant, ils avaient des bons crédits, je me rappelle, hein. Ils me faisaient voir des fois, mais regardez les crédits qu'on a reçus encore. Ils faisaient beaucoup de plantations. Nous, on avait un bulldozer qui faisait que ça. Il faisait avec des ripères, une raie à la fois, à un mètre de profondeur, 80 à un mètre. Il faisait que ça, dans les montagnes. Et les eaux et forêts, ils avaient des raies plantées. On a beaucoup travaillé dans les Hautes-Alpes, de partout, dans la Drôme, de partout. Et bon, ben maintenant, ils ne plantent plus, c'est fini. Ouais, la vallée, il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer pour travailler, non. Oui, il y a un boulanger à Noyer qui est bien, qui travaille bien. Enfin, un boulanger et pâtissier, parce que la boulangerie, ça n'est un autre. Mais celui que je vous dis, il a arrêté le pain, il ne fait plus que les gâteaux, quoi. Celui qui habite après Noyer en descendant. C'est énorme, c'est délicieux. Voilà, un gars qui travaille bien, et lui, il a trouvé son filon, lui. Quant à la boulangerie, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est toujours fermé. Le Noyer fait 5000 hectares. Or que les communes font 2500, 2000, 3000 au maximum. Et Noyer fait 5500, je crois. Parce qu'il y a deux communes rattachées. Ils ont repris Jargeil avec. Le château de Jargeil. La famille, c'était des gens d'Aubagne. C'était des petits seigneurs. Ouais, ils avaient trois petites fermes que mes parents ont achetées, ils appartenaient à lui, là. Les trois petites fermes, ils en ont fait une, quoi. Et c'est là où habite Jean-Luc Boucher. Ça appartenait au château aussi. Et voilà, il a eu ce titre de baron. C'est là qu'il a été nommé baron. Le baron de ses yeux de Jargeil. Baron de ses yeux. Alors, paraît-il qu'on l'aurait appelé baron de ses yeux parce que c'était lui qui s'était fait nommer comme ça. Parce que le nom de famille, c'était des... C'est pas un nom comme ça. Parce que quand il a ce château, il avait dit « Je tiens à ce château comme la prunelle de mes yeux ». Alors quand il a été déclaré baron, là, il a dit « Je veux qu'on m'appelle baron de ses yeux, de Jargeil ». Ben, il est enterré à Jargeil, d'ailleurs. Ils sont tous enterrés, il y a un petit cimetière, là où j'ai le petit chalet, juste à côté de chez nous. Là. Ils sont tous enterrés là, les deux barons. Là. Et voilà, et après, bon, ben, c'était le baron, petit à petit, voilà, ils ont tout vendu, ils sont partis. Ils avaient un autre château dans l'Aude ou dans le Gard. Puis ils sont partis là-bas, puis ils ont vendu tout ça ici, ils sont partis. Ils ont vendu les fermes, le château, tout, ils sont partis. À l'époque, mes parents étaient là, et ils ont acheté ces trois petites fermes, le Serre de Marie, le Duvier et Saint-Pierre, les trois. Voilà. Et là, le grand-père de Jean-Luc Boucher, le moulin au château en bas, où ils font le safran. Mais le grand-père, lui, en même temps, et son grand-père Jean-Luc, là, lui, il avait acheté le château, après il l'a revendu, lui, et la ferme du moulin où il y a Jean-Luc, là, la dernière ferme qui restait. Ils avaient une autre ferme en Serre Bernard, à Péquichard, ça leur appartenait aussi au baron. Là, là c'est les qui c'est qui avait acheté ça. C'était nommé Justin de Saint-Martin. Je le connaissais, ce gars, comme ça, de vue, mais il était vieux quand même. C'est comme son nom de famille, c'était, je ne me rappelle plus, moi. C'est lui qui avait acheté ça. Ils avaient dans l'Ure, ils avaient le jardin de Madame, leur appartenait, Corbourg leur appartenait.
cette ruine qui est au bout de l'Ure là. Après la Graille, Château Madame et Corbeau. Et ça appartenait tout au château là. Mais ils ont tout vendu, ils sont partis. Voilà. Une partie, c'est les communes qui ont acheté. Une partie, c'est les particuliers, et voilà. Puis ils sont partis, et voilà. Fini. C'est le château, c'est un vieux château, bon, c'est un qui était à l'abandon. D'abord, le propriétaire Boucher, là, le premier propriétaire, lui, là, il avait fait enlever les toitures pour ne pas payer les impôts. Il avait fait tout découvrir, sinon il fallait qu'il paye les impôts. Et après, ça a été un peu retapé par Fedvé, le chirurgien, là. Et puis, Poul est arrivé, là, lui, il a fait 4 réparations aussi. Il y a une petite partie qui est habitée, quoi. Mais il y aurait un sacré boulot, là. Il y aurait du boulot à faire, parce qu'il est assez grand, mais il y en a les 3/4 en ruine, quoi, la moitié en ruine, quoi. Maintenant, les 3 petites fermes, c'est nos fermes à nous, quoi. Maintenant, fini la vigne, qui produisait un petit orboyau, une petite aigrelette, là. Tout ça, j'ai laissé tomber, mais moi, je l'ai encore fait, hein, à la retraite. Mais j'ai laissé tomber, quoi. Et puis maintenant, c'est les vaches. Les vaches qui se promènent là-dedans. C'est un gars de Val-Louise qui vient, la Granée. Il amène ses vaches à la rentrée de l'hiver, et le 15 juin, il les reprend. Il les remonte à Val-Louise à Briançon, là. Et voilà, maintenant c'est tout à l'abandon, les terres abandonnées, c'est tout abandonné. Il a poussé les buissons dans les terres. Peut-être il y a mon petit-fils, là, je ne sais pas, avec sa lavande, je ne sais pas, il dit qu'il veut replanter tout en lavande, je ne sais pas, peut-être. Ouais, des lavandes, ouais, il habite à Salignac, là-bas. Alors lui, il se voit déjà, c'est argileux, c'est des terres argileuses, en fait, bon. Puis c'est complètement au nord, c'est pas côté soleil. Ouais. Mais ouais. Ah, il pourrait faire un essai, je sais pas. Et ouais, le soleil, l'hiver, il fait des apparitions, c'est tout. Hein. Il fait que des apparitions l'hiver. Par contre, il y a des belles sources, il y a de l'eau. Moi, j'ai mon jardin, là, à côté de la. Parce qu'il y a l'église. Le château avait son église. Puis après, comme ça faisait commune, il y avait l'église de la commune de Jargeil. Qui appartient toujours à la commune de Noyers, puisque c'est la commune de Noyers qui a acheté. Et c'est un prêtre qui est venu il y a quelques années, là, un copain, un collègue, qui a remonté l'église, le pauvre. Et en plus, il était handicapé. Il manquait les 2 pouces, il était né sans pouces. Ouais. 2 Kérimel, c'était d'origine de Breton. Et il a travaillé, il a embauché un peu du monde, hein, et il a remis le toit. Et maintenant, c'est ses petits-neveux, ses neveux qui viennent. Des fois, l'été passé une semaine, mais il n'a remonté que l'église, pratiquement, quoi. Parce que le reste à côté, c'est tout par terre, c'est tout tombé, quoi. Et voilà. Et là, il y a le cimetière encore. Hein. Il y a le cimetière juste à côté. Et moi, j'ai un petit chalet qui touche le cimetière, presque. Un petit cabanon en bois là, qui touche le cimetière. Je vis quand je... Maintenant, il va presque plus, mais avant... On était bien, on dormait bien avec les morts à côté, les châtelains, les comtes, ceux qui ont fait souffrir les autres. Ça m'est arrivé souvent, parce que j'avais les chiens de sanglier. On allait lâcher les chiens aux bons enfants, à Pépin, là, derrière, on montait un peu dans la route qui monte à Lure, là, à Pépin. Et bien souvent, de là, à pied, jusqu'ici à Noyers, même beaucoup plus loin. Et les montagnes, je les connais toutes, hein. Il n'y a pas 20 mètres carrés que je ne connaisse pas. Tous les jasses, tous les coins, tous les chemins et tout. Et ouais, mais maintenant, il n'y a que 2 ans que j'ai arrêté. Il n'y a que l'année dernière et cette année, quoi, que j'ai arrêté. Sinon, jusqu'à maintenant, j'allais ici, j'allais à Noyers à la chasse aussi. Oh, mais après, j'ai plus eu de chiens, j'ai eu des chiens, les chiens de sanglier, il faut être jeune pour les suivre. Il faut courir aussi vite qu'eux. Sinon, il vous arrive que des malheurs, hein. Les chiens sanglés, il faut y être. Sinon, ils se font tuer. Moi, j'en ai eu de morts, je ne sais pas combien. Alors, après, marcher, toute la journée, courir, non, c'est fini, ça. Ouais, il y a 2 ans que j'ai abandonné, quoi. Ah, puis alors, au poste, ça ne me plaît pas. Rester planté, là, pendant 2 heures, ça ne me plaît pas. Moi, je courais derrière les chiens, et voilà. On avait le camion de chasse à Bevon.
L'équipe était à Bevan, chez Ploch. Le cabanon qui a, quand on descend à gauche, on monte les escaliers là. Il était là le cabanon, il y avait Barbel, Bevan, Noyé et Noyé quoi. Parce qu'à l'époque j'habitais encore en bas, j'habitais pas ici. Il faut une bonne équipe, on était toujours 20-25. Ah ouais, à Bevan on était toujours 20-25, à un moment on était trop nombreux même. Trop nombreux ça va pas non plus parce que on se disperse trop. Mais 15-20 c'est bien. Il faut des gens qui aillent au poste, qui aillent se geler quand il fait froid. Et pas bouger, pas faire de bruit, pas fumer. Sinon, rien qu'à la fumée, le sanglier c'est malin. Et puis il passe à côté. Ah, c'est un flair incroyable, c'est des bêtes sauvages. Hein. Mais c'est, en plus, ce sont des bêtes très intelligentes. Le sanglier est très intelligent. Le sanglier, il passe un poste, et une fois, deux fois, trois fois, il se fait tirer, il se fait blesser. Fini, il ne passe plus. Hein. Il est malin. Hein. Il va passer ailleurs, à côté, ou alors il y va, il se présente à 50 mètres, hop, il bifurque à côté. Et il est malin. Hein. Ben, il fut un temps, il y a 10 ans, 15 ans de ça, entre 10 et 15 ans de ça, on était envahis dans la vallée. Il a fallu que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, on a fait appel quoi, à la fédération, ils sont venus la nuit, tout ça, avec des phares et tout ça. On en a tué je ne sais pas combien. Et tout ça au conteneur. Allez hop. Les petits, les gros, les moins gros, tout, allez. Des massacres. Ah ben, les gars dans les fermes, ils renversaient tout. Ils allaient un champ de patates, ils le renversaient, le blé, ils déterraient tout. Quand le gibier, quand il y en a trop, le gibier, il faut qu'il soit géré, la chasse, il faut qu'elle soit gérée. Sinon, ça fait trop de dégâts. Et c'est comme pour les lapins, pareil. Et s'il y en a trop, ça fait des dégâts, ils bouffent tout, et voilà. Les sangliers, les cerfs, en ce moment, c'est les cerfs ici, là. Ceux qui ont les arbres fruitiers, là, il faut qu'ils parquent, sinon, ils dépointent tout, hein, ils dépointent les arbres. Et ouais. Ah, ici, la nuit, vous venez le soir, surtout à l'automne, au moment du brame, là. Et ils viennent dans les prés dessous, là. Ils brament, ils viennent bramer là-dessous, là. Mais il y en a pas mal, du cervidé, maintenant, ici. Hein. Moi, j'ai jamais été à la chasse aux cerfs, hein, on ne savait pas ce que c'était qu'un cerf. Les cerfs ont commencé à arriver, ils arrivaient du Ventoux, il paraît, il y a une vingtaine d'années, pas avant. Avant, il n'y en avait pas. Il y en avait quelques-uns, mais à l'époque, mais très peu, très peu. Nous, on cherchait dans Bevan, dans l'Ure. Ça nous arrivait quelquefois d'en voir un, mais c'était rare, quoi. Puis c'était interdit de les tirer, quoi. Mais maintenant, vous en avez de partout. Des fois, le soir, dans les champs, là, entre biches et cerfs, ils sont 7, 8, 10. Et après, ils font des dégâts, hein. Les premiers chevreuils, c'est l'ONF qui les a introduits. C'était dans les années 75. L'ingénieur des eaux et des forêts, il nous dit, voilà, nous allons faire un essai, nous allons mettre du chevreuil dans l'ONF, parce qu'il paraît que ça fait bien, puis bon, à des endroits en haut, tout ça dans le nord, de partout il y en a, ici il n'y en a pas, et on a fait un parc. C'est nous qui avons fait le parc, du côté de Saint-Géniès, dans le trou, dans la vallée, comme ça s'appelle, les Abrosses. On monte par Saint-Symphorien, là-bas, au fond, là-bas. On avait fait un grand parc. On avait passé sur pas mal d'hectares, hein. On avait passé une piste aux bulles. Après que la pelle, on avait planté des piquets, ils avaient mis des grillages, ils avaient lâché 4 ou 5 coupes de chevreuil. Ça, c'était en 1970. Mais ça s'est répandu à une vitesse incroyable. Incroyable, ça s'est répandu. Et ça, c'était dans le Vanson, mais c'était entre pierres. Hein. 5 ans après, même pas, il y en avait de partout dans la vallée. Ah ouais, c'est facile, ça prolifère, ça ne fait pas trop de mal, ça, c'est une petite chèvre. C'est... Ils ont introduit ça pour gagner de l'argent. Les trois quarts des chasses, enfin, les trois quarts du territoire et de l'ONF, hein, en superficie. Alors, et la chasse, elle se vend cher. Et voilà, alors, et avec le chevreuil, ils ont maintenu encore un peu le... En parlant de chevreuil, aujourd'hui, à midi moins le quart, en allant manger à Noyer, il y en a un qui nous a traversé, où c'est qu'il nous... à Vincennes, là. Et là, il a traversé devant la voiture, il venait du sud, là, il passait à Lubac. Il descendait boire, sûrement. Il a traversé devant la voiture, tranquille, hop. Il allait boire au Jabron, sûrement, il allait boire à la rivière. C'est des jolies petites bêtes. Une fois, c'est quand que 3 ans avant que j'arrête à la chasse, 3 ou 4 ans avant que j'arrête à la chasse. On était à la chasse à Noyer là-bas. Le matin, les chiens me prennent un sanglier. Et ce sanglier, ma foi, il est parti. Et à un moment, j'entends les chiens qui revenaient. Je pensais que c'était un sanglier qui ramenait, tu penses. C'était un chevreuil. Mais, ma foi, je vois cet animal un peu loin, j'y tire. Moi, je vais voir, il laissait une goutte de sang, mais rien, quoi. Les chiens sont arrivés, ils l'ont suivi à la trace. Hein. Mais il est allé, lui, il perdait quelques gouttes, mais rien, quoi. Puis à un moment, c'était allé à l'automne, à l'époque de Champignon, j'entends comment appeler au secours. Ah, j'ai dit, il y a quelqu'un qui s'est piqué par un serpent, il y a quelque chose. Hein. Je comprenais plus. Hein. Je cours, c'était le chevreuil, putain. Les chiens, ils le mordaient, ils pleuraient, on aurait dit une personne. Alors j'étais là, je ne voulais pas y tirer. J'enlevais les chiens, et il était là, il souffrait. Mon petit-fils, il arrive, il venait de prendre son permis. « Oh, qu'est-ce que tu fais, papy, là? Pourquoi tu ne tues pas ?» J'ai dit « Je ne peux pas. » Et j'ai dit « Mets-toi bien dans la tête, à partir d'aujourd'hui, je ne tire plus au chevreuil. » Et j'ai pu tirer. Il y a 2 ans de ça, trois ans ça va faire. J'étais avec les Galliano, là. On va, le matin, on se pointe là-bas. Il me dit « Aujourd'hui, il faut qu'on aille au chevreuil. » Parce qu'on a des bracelets, et il faut les utiliser, on va au chevreuil, je dis, moi j'y vais pas. Pourquoi tu vas? Parce que j'y vais pas. Moi je rentre chez moi, au chevreuil je tire pas. On me dit, comment? Mais tu n'es pas un chasseur, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, non. Depuis ce coup-là, je ne veux plus rester bête, fini. Je ne veux plus voir ça. Hein. On me dit, bon, alors on ira au sanglier. Alors on part, on va au zombar, là-dessus, au zombar en face. Et j'étais là, j'entends des chiens, mais les chiens ronronnaient, à Galliano, je ne les connais pas ces chiens. Mais j'ai dit, tiens, il y a peut-être les sangliers qui arrivent. Il m'en arrive deux chevreuils. On aurait dit que c'était fait exprès. Alors ils arrivent, puis c'est des bêtes, quand s'ils voient bouger quelque chose, ils s'arrêtent, hein, ils écoutent, ils regardent, ils ont peur, ils sont, c'est peureux ça. Et c'était pas des adultes, c'était des petits. Alors ils m'ont vu, ils avaient peur du chien, ils écoutaient le chien, ils se serraient un contre l'autre. Ils faisaient 7-8 mètres, puis ils écoutaient le chien un contre l'autre, ils écoutaient les chiens. J'ai baissé la carabine, j'ai dit « Cassez-vous, vite, hein, cassez-vous de là !» Et puis ils sont partis, quoi. En arrière, les chiens, j'ai arrêté les chiens. Il me dit « Pourquoi tu n'as pas tiré ?» J'ai dit « Non, je vous ai dit que je ne tirais pas au chevreuil, je ne tirais pas, c'est tout. Tu as fait une petite bestiole, on dirait des petits chevreaux, là, quelque... Une fois que c'est écorché, on dirait un lièvre, là. Ouais, moi, le chevreuil, depuis, c'est fini. Il ne faut plus me parler de tir d'abord. Je ne chasse plus, mais il y a déjà 4 ans, de ça, au moins 5 ans, 4 ou 5 ans, depuis, j'ai chassé encore un noyer, mais j'ai dit, donc, terminé, au chevreuil, il est fini. Vous y allez si vous voulez au chevreuil, moi, je n'y vais pas. Des petites bestioles, il faut les laisser vivre. Oh, c'est pas les sangliers, Ah, puis les sangliers, j'en veux un peu parce qu'ils m'en ont tué des chiens et des chiens. Alors, j'ai un peu la haine contre eux. C'est méchant, ça. Hein. Et puis, ils se défendaient. Hein. Pour moi, j'avais une meute de chiens, c'était des nivernais. C'est des chiens exprès pour le sanglier. C'est des gros chiens griffons à poils longs, noirs. Noirs ou feu, entre feu et noir. C'est des chiens qui sont très hargneux, ils sont bons pour le sanglier. Mais petit à petit, la meute, ils me l'ont démonté complètement. Ils sont hargneux, ils se faisaient tuer. Ils s'acharnaient. Le sanglier se foutait aux fermes, et continue, ils vont le mordre jusqu'au moment où... Attention quand ça démarre, ça. C'est comme une bombe quand ça démarre. Il n'y a personne qui peut résister. Ça fonce avec leur tête pointue, là, dans des bois. Les chiens ne font pas plier. Il les sort propre, il les ouvre. Il les ouvre les tripes dehors, allez hop. Ou bien il coupe la gorge là. Ils se font tuer, quoi. Ouais, moi ma meute de Nivernais, elle a toute disparu comme ça. Ils se sont fait tuer tous. Et ouais, toujours avec ses chiens. Puis alors, nous, à l'époque, je travaillais encore. Hein. Alors, le lendemain. Vous roulez toute la journée en voiture pour chercher les chiens. Hein. Moi, j'allais les chercher de partout. Je suis allé chercher dans les Hautes-Alpes, je suis allé les chercher en bas dans les Vaucluse, hein, à Sceaux, de partout, de Noyé, de partout. Hein. Et un sanglier, ça va loin. Si c'est un mâle, il va loin. Il fait 80 km, un sanglier. Alors, le lendemain, au lieu d'aller travailler, on courait chercher un chien. Alors, bon, j'avais des collègues qui prenaient ma place, hein, des fois, mais des fois, j'étais bien obligé d'y aller aussi. Et j'avais une équipe de chiens, des femmes de Bretagne. Et ceux-là, ils ne se laissaient pas attraper. Alors, n'importe qui allait les récupérer, ils ne mettaient pas la main dessus. Hein. Il n'y avait que le patron qui connaissait. Alors, ils m'appelaient, les gens, ils m'appelaient des fois, ils avaient une plaque. Hein. Et moi, je téléphonais un peu partout d'abord. Aux chasseurs. Ah tiens, il y a à tel endroit, il y a deux griffons fauves de Bretagne, des griffons fauves de Bretagne. Et un est arrivé à l'attraper, les autres n'y prennent pas la main dessus. Il y a ton numéro, il y a ta plaque. Ah ben je disais, ne bougez pas, je vais les chercher, allez, pars. J'en avais que s'il n'était pas blessé, il revenait tout seul. Le Nivernais, il revenait pas trop, mais le fauve de Bretagne, pas, il revenait de loin. Mais. Ils s'orientent mieux que nous, c'est drôle. Hein. Je ne sais pas, ils s'orientent, ils arrivent à la maison. Ah ouais. Une fois, on m'a téléphoné d'où, d'en bas. On était à Jean-Siac, à la chasse. On m'a téléphoné de... Après Acte, là-bas, je ne sais pas où, là-bas. Où c'était ça, déjà. Le Moulin, il était loin. Et j'arrive là-bas, le gars, il me téléphone, il me dit, j'ai un chien à vous, là. J'ai pu relever le numéro, mais je ne peux pas y mettre la main dessus. Ben, j'ai donné à manger, alors avec il s'est approché, il a relevé. Là. Mais il m'a dit, j'aurais pas l'attrapé. Et non, j'ai dit, vous ne l'attraperez jamais. Mais il m'a dit, mais bon, il est là, venez le chercher. Je pars, j'arrive là-bas, le type, il m'a dit, mais il était là il n'y a pas longtemps. Il était là il y a quelques heures qu'il était là. Il m'a dit, mais il me semble, ça c'était midi, là, il m'a dit... À 9h, il était là encore, le chien. Il était là, il n'est plus, appelle. Il doit être dans le coin. Penses-tu? Bah, j'ai dit, mais tant pis. Je reviens, j'avais le chenil à Jarja, il a noyé là-bas. Je monte le chemin. En montant, je vois une chienne sur la piste devant moi, c'était lui. Il est arrivé au chenil avant moi. Il a dû partir de suite le matin. Il a traversé la montagne de Lure, peut-être. Une chienne, ça fait du chemin. Pour. Un chien, ça a quatre pattes. Hein. Puis il était intelligent, ce chien. Et voilà, maintenant, il y en a beaucoup qui sont enterrés dans mes champs là-bas. Et les meilleurs, ils sont enterrés au fond du jardin. Au fond du jardin, il y a un coin rien que pour les chiens. Ils se sont enterrés là. Et ouais, ils m'ont fait passer des bons moments. Oh, c'est une jolie petite vallée, tranquille. Pas encore polluée. Elle est encore saine. Mais on est bien dans le même genre.